Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Le journal de l'économie avec François Geffrier.
6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. 3 titres, on commence à voir le bout du tunnel des taux d'intérêt ultra hauts. La Fed a précisé ses intentions hier soir. Orpea change de nom pour faire oublier le scandale. On verra si c'est une bonne idée. Et puis le Sénat vote aujourd'hui sur le traité de libre-échange avec le Canada, pourtant déjà appliqué en grande partie depuis 6 ans. On verra avec quel bilan.
Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged. And to continue to reduce our securities holdings.
Les taux ne changent pas aujourd'hui, annonce Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine. Mais il confirme qu'il y aura 3 baisses cette année. Éric Mauban, le desserrement de la politique monétaire se précise.
Absolument, il se fait attendre. Aux États-Unis, les taux sont au plus haut depuis 20 ans. Avant de les réduire, la Réserve fédérale veut s'assurer que les prix ne vont pas se remettre à partir à la hausse. En effet, en février, l'inflation est ressortie à 3,2% sur un an, soit un peu plus que les 3,1% observés en janvier. L'inflation reste encore élevée, a déclaré Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale. Selon lui, les perspectives économiques restent incertaines et l'objectif d'une inflation à 2% n'est pas assuré. Les dernières hausses des taux n'ont pas provoqué en effet de hausse significative du chômage. Les créations d'emplois augmentent. Pour l'autorité monétaire américaine, il n'y a donc pas d'urgence à réduire les taux, une position qui diffère de celle de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Elle redoute un ajustement des taux qui viendrait trop tard. En Europe aussi, les taux sont à un niveau record. Mais là, la décrue de l'inflation et le ralentissement de l'activité économique mettent l'autorité monétaire sous pression pour se montrer plus clémente dans l'octroi de crédit.
Éric Mauban en direct. Alors la réaction des marchés financiers à ces annonces des banques centrales, le Dow Jones a gagné 1%, le Nasdaq 1,25%, le CAC 40 avait fini dans le rouge, 0,5% de baisse, 8161 points. En ce moment, le Nikkei grimpe de 2% à 40800 points. L'euro est à 1,0934 et le baril de Brent est à 86$. On remarque le plongeon hier du titre Kering, 12% de baisse du jamais vu dans l'histoire du groupe de luxe, 7 milliards d'euros de capitalisation effacée en une séance. C'est Gucci qui plombe l'action Kering. Gucci, vaisseau amiral du groupe, mais vaisseau qui vogue moins vite. Chiffre d'affaires attendu en baisse de 10% au premier trimestre sur un an. Lui a connu la pire dégringolade boursière de ces dernières années. Son cours ne signifie d'ailleurs plus grand-chose. On est à 1 centime pour vous donner une idée. Orpea va tenter de remonter la pente. Son directeur général, Laurent Guillot, estime que le scandale est passé. L'entreprise est sauvée financièrement. Les mauvais traitements ne peuvent plus arriver. Reste à changer de nom pour envisager l'avenir en partant d'une page presque blanche. Orpea devient donc Emeis. Alors, changer de nom, est-ce une stratégie pertinente, Zoé Pallier?
Pour être payant, un changement de nom ne doit surtout pas être perçu comme cosmétique par le public et les investisseurs. Il doit donc s'accompagner d'un plan de transformation crédible et arriver au bon moment.
Pour Orpea, c'est peut-être un petit peu trop tôt.
Guillaume Foucault, président de Corpcom, spécialiste en communication de crise.
Si des problèmes du même type que ceux qui ont poussé Orpea dans la crise reviennent, votre nouvelle marque, elle est éclaboussée immédiatement et vous devez encore en changer. Et là, vous perdez tout le monde.
Mais il n'y a pas que les scandales qui poussent les entreprises à changer de nom. C'est par exemple la Compagnie Générale des Eaux qui devient Vivendi en 98, covoiturage.fr qui veut s'exporter et se transforme en Blablacar, ou plus récemment, Facebook qui investit le métaverse et s'appelle désormais Meta. Nina Deray préside l'agence Nomen, spécialisée dans la création de marques.
On a un nom qui bloque le développement international, par exemple, qui bloque la diversification de nos activités parce qu'on a un nom qui est trop descriptif. Le risque est pris.
Changer d'identité peut aussi servir en interne à ressouder ses équipes, estime cette communicante. Si les salariés participent à l'élaboration du nouveau nom, se l'approprient et en font une fierté.
Zoé Pallier, le déficit public à la une et un écart énorme entre ce qui était prévu et la réalité pour 2023. 4,9% non, 5,6%. Selon les échos. On y revient à 7h15 avec Éric Delannoy, spécialiste des politiques publiques et patron du cabinet de conseil en stratégie Tenzing. Comment l'Union européenne peut continuer à aider l'Ukraine alors qu'aux États-Unis les parlementaires bloquent toute nouvelle tranche de soutien? Un sommet européen se tient aujourd'hui et demain. Les 27 s'interrogent comment financer leur propre défense tout en aidant l'Ukraine à renforcer la sienne. Bonjour Eric Kioche.
Bonjour François, bonjour à tous.
Plusieurs pistes sont sur la table.
Première option, ponctionner les intérêts générés par les avoirs russes gelés en Europe pour soutenir l'Ukraine. Une porte ouverte par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, fin février. Cela représente quelque 3 milliards d'euros annuels. Selon le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, 90% de cette somme serait allouée en priorité à la FEP, Facilité européenne pour la paix, le mécanisme européen pour rembourser les armes livrées à Kiev. 10% serait ensuite dédié au renforcement des capacités industrielles de la défense ukrainienne. Reste aux 27 à valider une telle initiative. Il faudra s'attendre à des réticences de la part de la Hongrie notamment, tandis que Berlin soutient fermement cette option. La France ne s'y oppose pas, mais souhaite explorer d'autres pistes innovantes, comme l'affirme l'Élysée.
Oui, alors Paris plaide notamment pour un emprunt au niveau européen en faveur de l'Ukraine.
Il s'agirait d'un emprunt communautaire de 100 milliards d'euros en eurobonds, ce qui permet de bénéficier de taux avantageux. Les profits générés par les avoirs russes gelés seraient utilisés pour s'acquitter des intérêts. Paris espère que cela puisse convaincre les pays frugaux, Allemagne en tête. Enfin, une troisième option, soutenue conjointement par Paris et Berlin, vise à inciter la Banque européenne d'investissement à développer une politique de prêt pour l'industrie européenne de la défense. Pour l'Élysée, il est nécessaire d'avoir un signal très clair du bras financier de l'UE. Cela ne signifie pas forcément des prêts directs de la BEI, mais pourrait faciliter l'engagement de banques privées sur le secteur.
Éric Kioche pour Radio Classique. Autre sujet européen du moment, le traité CETA, qui permet le libre-échange avec le Canada. Sa ratification en France doit être votée au Sénat aujourd'hui, mais on s'attend à un rejet. Le texte est pourtant appliqué depuis 6 ans en quasi-totalité. D'ailleurs, le gouvernement assure que le CETA est bénéfique pour la France. Un argument qui se tient, selon Anne-Sophie Elsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France, et d'une certaine manière, il est un peu tard pour changer la donne.
Pour l'Europe, depuis que cet accord a été conclu et mis en œuvre, on a une augmentation des échanges qu'on estime à peu près à 9%. Ça comprend énormément de piliers, par exemple tout ce qui est droit de douane qui a été abaissé. Et en effet, sur les 27 États membres, il y en a 10 qui n'ont pas encore ratifié. Ça traîne parce qu'on a une montée du protectionnisme, parce qu'on assimile libre-échange, accords commerciaux à l'Europe. Mais en tout cas, 95% de l'accord est déjà en place, donc on ne va pas renégocier avec le Canada, etc. Mais c'est vrai qu'à mon sens, c'est beaucoup plus un portage politique. C'était vraiment au moment de négocier cet accord qu'il fallait plus monter au credo. Maintenant, c'est vrai que c'est plus compliqué.
On s'était habitué à dire que ça allait de mieux en mieux, mais les délais de paiement repartent dans la mauvaise direction. On était en moyenne fin 2022 à 11,7 jours. On est presque désormais à 12,7 jours. Bonjour Frédéric Witznowski.
Bonjour.
Vous êtes le médiateur national du crédit à la Banque de France. Les délais de paiement recommencent à augmenter. Comment l'expliquez-vous ?
C'est la conjoncture avec la tension sur les trésoreries. Il faut voir que le crédit interentreprise, c'est 800 milliards. C'est plus de 2 fois les crédits de trésorerie qui sont accordés par les banques. Donc, c'est une masse importante. Et souvent, c'est malheureusement une manière d'ajuster pour les entreprises leur trésorerie en payant plus tardivement leurs fournisseurs. Alors, il y a un élément positif, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises, presque 50% maintenant, qui payent sans retard. Par contre, il y a une détérioration sur les plus grandes entreprises. Plus de 1000 salariés qui perdent un jour à peu près, mais également sur les toutes petites structures où il y a une détérioration d'à peu près 2 jours. Donc c'est un point bien évidemment d'attention dans la conjoncture actuelle.
Alors on observait déjà ces derniers mois une remontée des défaillances d'entreprises. Est-ce que ce sujet sur les délais de paiement, ça peut accélérer le phénomène ?
Alors, il y a bien évidemment un lien avec les défaillances. Ce que l'on sait, c'est les retards de paiement accroissent le risque de défaillance. Après, il y a d'autres phénomènes qui expliquent les défaillances. Il y a un rattrapage par rapport à la période de la crise Covid. Il y a des évolutions structurelles de certaines entreprises qui expliquent aussi cette augmentation des défaillances. C'est pas simplement la question des retards de paiement.
Frédéric Witznowski, merci beaucoup, invité du Journal de l'économie de Radio Classique, le médiateur national du crédit à la Banque de France. Et puis, on parlait hier d'Augustin de Romanet, qui ne sera pas reconduit pour un nouveau mandat à la tête du groupe Aéroports de Paris. Mais hier, au conseil d'administration, l'État lui a demandé de bien vouloir rester au moins quand même jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, qui est un point clé pour le groupe ADP, évidemment, avec la porte d'entrée en France de 50 000 membres des délégations accréditées pour les Jeux à Paris. Dans quelques instants, le journal de 7 heures, on va parler à nouveau du CETA, ce traité de libre-échange avec le Canada. Restez avec nous.